Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'attache à la vie des Européens. Des pays baltes inquiets de la tournure de la crise ukrainienne. Une femme mère à Prague qui promet la fin de la corruption. Le café, une passion finlandaise, c'est dans Accent. Mais d'abord, cette nouvelle arrivée de façon plutôt surprenante de réfugiés syriens sur les côtes italiennes. C'est un voyage pas comme les autres. Un nouveau concept de migration. 12 Syriens fuyant la guerre ont préféré s'embarquer sur un bateau de croisière plutôt que sur un canot de fortune. Il faut dire que ça coûtait moins cher, et oui. Une aventure rocambolesque qui s'est achevée dans le port de Bari, dans le sud de l'Italie, le 19 octobre dernier. Mais elle n'a été révélée qu'hier par la presse italienne. Mathilde Auvillain nous en dit plus depuis Rome.
Tirés à quatre épingles, chemises bien repassées et tenues élégantes, les valises bourrées de livres, 12 Syriens ont débarqué d'un bateau de croisière de la compagnie MSC le 19 octobre dernier. Mission accomplie, même s'ils quittaient à regret leur cabine luxueuse pour être transférés dans un centre d'accueil pour réfugiés à Bari, dans le sud de l'Italie. Partis à pied d'Alep, ils racontent avoir payé plus de 1000 dollars chacun à des passeurs pour entrer en Turquie, puis avoir traversé le pays en autocar. Une fois à Istanbul, ils se sont retrouvés nez à nez dans le port avec des bateaux de croisière grouillant de touristes et par défi, sans y croire vraiment, ils ont alors réservé des cabines sur Internet. Surprise, la croisière en première classe coûtait moins cher qu'une traversée clandestine sur une embarcation de fortune. Moins cher, ce voyage était aussi plus sûr. Depuis l'interruption de l'opération Mare Nostrum, les traversées sont devenues beaucoup plus périlleuses, la marine militaire ne patrouillant plus aussi loin en Méditerranée. Cette croisière rocambolesque des réfugiés syriens a quelque chose de symbolique. Elle déjoue les préjugés sur l'immigration. Ces hommes et femmes, médecins et vétérinaires de profession en Syrie, ont pu embarquer sans problème. Se fondant dans la foule, ils ont pu participer aux activités frivoles à bord, comme des passagers normaux, racontent les croisiéristes européens, encore ébahis devant leur anglais impeccable. Voilà tout le contraste entre une partie du monde dont les habitants sont libres de voyager pour s'amuser et une autre entravée dans un voyage pour la liberté et la survie.
Et des réfugiés syriens, nous en reparlerons demain, direction la Finlande, où 500 d'entre eux tentent de s'adapter au frima de l'hiver et à une toute nouvelle culture. Voilà 25 ans maintenant que la Lituanie a retrouvé son indépendance après un demi-siècle d'occupation soviétique. Aujourd'hui, le pays est pleinement intégré dans les structures occidentales, membre de l'OTAN et de l'Union européenne depuis 2004. La Lituanie va même adopter la monnaie européenne le 1er janvier prochain. Une situation rassurante, aussi bien sur le plan économique donc que politique. Et pourtant, les Lituaniens, comme leurs deux autres voisins baltes, sont de nouveau très nerveux. La crise entre la Russie et l'Ukraine a réveillé les craintes d'un voisin russe tout puissant. Les Baltes ont bien peur d'être les prochaine cible de Vladimir Poutine, qui a toujours affirmé que la chute de l'Union soviétique était pour lui l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Des craintes ravivées par les provocations russes qui se multiplient ces derniers temps. C'est le reportage de Marielle Vituro.
Le bruit assourdissant des avions de chasse dans le ciel balte n'a rien de bien inhabituel ici. Le 7 décembre, les pilotes portugais et canadiens qui assurent la mission de police du ciel de l'OTAN dans la région ont décollé 3 fois. Ce jour-là, 11 avions militaires russes, dont des bombardiers, ont survolé la mer Baltique, tout équipement de liaison et de reconnaissance éteint. Des provocations à répétition qui ont contraint l'armée lituanienne à relever son niveau d'alerte d'un cran.
Je ne sais pas si le risque politique existe au point auquel les Lituaniens en parlent, mais quand on branche la télévision, quand on regarde les journaux, on parle que de ça.
De son bureau, Guillaume Jacquet a une vue imprenable sur le beau théâtre russe de Vilnius. Ce Français vit en Lituanie depuis une vingtaine d'années. Sa société s'est spécialisée dans le transport entre France et Russie.
On voit qu'il y a vraiment une peur des Lituaniens Alors, ils sont prêts à quasiment à prendre les armes pour se défendre en cas d'invasion. La Russie, c'est le voisin. On commerce avec ses voisins. Dans toutes les familles, il y a des gens qui ont du sang russe, qui ont du sang ukrainien. Les Russes viennent facilement à Vilnius, en Lituanie. On est proche. Donc, tout ça, ça les touche énormément.
Ces derniers mois, les provocations russes n'ont pas manqué dans la région balte. Enlèvement d'un agent secret estonien, arraisonnement d'un chalutier lituanien, présence militaire dans les eaux de la mer Baltique. Une situation alarmante pour Andrius Kubilius, ancien premier ministre lituanien.
Ce n'est pas à Moscou de déterminer les frontières de l'Europe. La politique agressive de la Russie représente un vrai danger pour la Lituanie et le reste des pays baltes. Il faut stopper l'agression russe en Ukraine, car si Moscou arrive à atteindre ses objectifs en Ukraine par le biais de cette politique, nous n'avons aucune assurance que par la suite, Moscou ne dirigera pas son regard vers notre région.
Pour l'analyste Marius Laurinavičius du Centre d'études est-européennes à Vilnius, les provocations russes n'ont rien d'étonnant. Leur objectif est même évident.
La Russie cherche à effrayer l'Occident par son imprévisibilité. Si la Russie décide de mener une nouvelle agression, son but est de faire douter les pays de l'OTAN, même un seul instant, qu'ils aient peur de se lancer dans un conflit ouvert avec la Russie. Oui, la Russie veut combattre l'Occident et ses valeurs. Dans sa tête, elle mène déjà la Troisième Guerre mondiale.
La sphère médiatique est le lieu idéal pour diffuser la vision russe des événements. La Russie vient d'ailleurs de lancer un nouveau média, Sputnik, qui diffuse aussi en estonien et en letton. Roberta est une jeune étudiante en sciences politiques. Le sujet la passionne. Nous l'avons rencontrée à la sortie d'une conférence de l'ambassadeur de Lituanie aux États-Unis consacrée à la Russie et à l'Ukraine.
Dans les médias à la botte de Moscou, la Russie se présente comme une victime des sanctions de l'Europe. Regardez comme l'Occident nous traite. Malheureusement, les gens y croient. Je pense que le danger est grand. En Lituanie, il existe une frange de la population qui soutient la Russie et ce soutien vient en fait des informations erronées qu'ils lisent dans ces médias.
Les Baltes ne restent pas sans voix face à ces provocations. En Lituanie, l'Union des tireurs, une organisation paramilitaire, connaît un regain de popularité. Elle compte près de 7000 personnes, soit autant que l'armée régulière, toutes prêtes à s'engager en cas de conflit. Vilnius vient également d'augmenter d'un tiers le budget de la défense et a créé une force de réaction rapide. L'armée lettonne tweete le survol de chaque avion militaire russe et les Estoniens s'apprêtent à voter une loi permettant l'usage de l'armée en temps de paix. Mais comme le relève Tomas Jermalavičius, analyste au Centre estonien pour la défense et la sécurité, la duplicité des Russes rend les stratégies pour les combattre encore plus complexes.
Le but du régime russe est de mettre en jeu la survie du système actuel ici en Lituanie. Cela peut aller d'un cas extrême comme la perte de l'indépendance de la Lituanie jusqu'à un changement constitutionnel, une déstabilisation chronique, un isolement progressif de nos alliés, de l'OTAN et de l'Union européenne pour nous affaiblir. La confrontation entre les franges de la population ou la réactivation de prétentions territoriales. Le problème est que nous restons dans l'incertitude. Nous ne savons jamais quelles seront leurs priorités.
Face à tant d'incertitudes, les Lituaniens cherchent tous azimuts des réponses pour renforcer leur sécurité. Cela passe notamment par un appel à l'OTAN qui a été entendu, mais ils n'ont pas encore fait tous leurs devoirs. L'armée n'est pas la seule institution qui devrait voir son budget augmenter. La police, les gardes frontières et la justice aussi.
Že to nebude je snadné, to snad víme všichni, protože Praha je komplikované prostředí.
C'est une publicité dont la nouvelle maire de Prague, que vous entendez, dont la nouvelle maire de Prague se passerait bien. Donc, encore aujourd'hui, une agence de voyage vante un tour opérateur de la corruption dans la capitale tchèque. Élue il y a quelques jours, Adriana Kernatchova affirme que cette fois-ci, la municipalité gérera son budget dans la plus totale transparence. Son portrait avec Alexis Rosenzweig.
Pour son premier jour dans ses nouvelles fonctions, Adriana Kernatchova a amené avec elle une statuette de Bouddha qui trônera dans son bureau pour l'inspiration. Car cela ne fait guère de doute, et elle le sait, la mission qui l'attend ne sera pas de tout repos et il lui faudra rester zen. Elle avait d'ailleurs longtemps hésité avant d'accepter d'être la candidate du parti fondé par le milliardaire Andrei Babiš, qui est actuellement ministre des Finances et comme elle, natif de Bratislava. Étrangère, avec des origines slovaco-hongroises et un parcours atypique, à 54 ans, Adriana Krnáčová ne semblait pas être la mieux armée pour remporter le combat électoral à Prague, où affairisme, clientélisme et corruption ont terni l'image de la politique locale ces deux dernières décennies. À la tête de la branche tchèque de l'ONG Transparency International pendant plusieurs années, elle a une idée assez précise de ce qu'a été la mauvaise gouvernance à l'échelle nationale et municipale. Rompre tous les liens avec ce passé obscur, voilà sa priorité affichée, et cela signifie que tous les marchés publics de Prague devront être transparents. Jusqu'ici, tous les gros contrats ont été assortis de scandales financiers, que ce soit pour le système de coupons d'abonnement des transports en commun ou pour le gigantesque tunnel interurbain dont l'inauguration est sans cesse reportée. L'examen approfondi des contrats passés par la municipalité pourrait ne pas plaire à certains groupes aux méthodes mafieuses, mais Adriana Krnáčová assume. Pendant la campagne, elle a indiqué que si elle était élue, il lui faudrait avoir des gardes du corps. Pour les commentateurs pragois, assurer sa sécurité ne sera pas un aussi grand défi qu'assurer la cohésion de la coalition tripartite dont elle a pris la tête et qui ne dispose que d'une très courte majorité au conseil municipal.
Jeunes européens, jeunes européennes.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
N'est-ce pas, Eve Minot ? Bonjour, Eve.
Bonjour, Catherine.
Alors, on en parle souvent avec vous, hein, le chômage des jeunes. Eh bien, c'est la bombe à retardement qui cristallise aujourd'hui pas mal d'inquiétudes en Europe. Et parmi ces jeunes chômeurs, une classe d'âge retient tout particulièrement l'attention. Ce sont les moins de 25 ans, déjà sortis du système, même si tout le monde s'inquiète de cette jeunesse désœuvrée. Rares sont les propositions alléchantes, Eve, qui veulent s'attaquer au problème.
Oui, souvenez-vous, on avait trouvé un nom pour parler de ces jeunes, sans diplôme ni travail, les ni-ni. Ils ont quitté les bancs de l'école et n'arrivent pas à se faire une place sur le marché. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'ils seraient environ 5,5 millions. Dans ce cas, c'est à ces jeunes-là que l'Allemand Peter Hartz s'est adressé la semaine dernière. Il veut en faire des europatriés.
Des europatriés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
L'ancien directeur des ressources humaines de Volkswagen est surtout célèbre pour sa participation au gouvernement Schröder et ses lois Hartz, donc. Le but, remettre déjà les chômeurs allemands au travail. Cette fois-ci, il a donc fait du bruit en proposant, en gros, un Erasmus de la formation, un programme de mobilité qui enverrait les jeunes sans qualification obtenir une formation, donc, et un salaire là où l'on a besoin d'eux ou que cela soit en Europe.
Alors en gros, hein, si on comprend bien, faire des jeunes espagnols, par exemple des apprentis dans l'industrie allemande.
C'est l'idée, faire profiter aux jeunes du Sud, les plus durement touchés par le chômage, des structures de formation intégrées qui existent au Nord. Évidemment, ce n'est pas de l'altruisme, car les entreprises ont besoin de cette main-d'œuvre bon marché et savent comment la former vite.
Et oui, surtout si l'Europe les subventionne.
Évidemment, le jeune disposerait d'un capital de formation de 50 000 euros environ sur 3 ans, destiné à l'entreprise d'accueil. Cet argent serait issu de fonds publics européens mutualisés. Coût de l'opération, entre 50 et 100 milliards d'euros pour 2 millions de jeunes europatriés. Reste à convaincre maintenant la nouvelle commission Juncker.
Et oui, ce qui permettrait, Eve, aussi de gommer l'inégalité du programme Erasmus.
On a beaucoup reproché au programme Erasmus de se concentrer sur un petit nombre d'étudiants déjà diplômés, issus de milieux privilégiés, alors que l'on sait aujourd'hui de manière certaine que la première expérience professionnelle est capitale et que le fait d'avoir vécu à l'étranger est largement valorisé par les employeurs.
Oui, en tout cas, Eve, sur le papier, l'idée semble plutôt intéressante.
D'abord parce que la ville de Berlin a prouvé qu'il y avait une demande avec MobiPro l'année dernière. Elle a été assaillie par les requêtes des Européens. Mais ce programme à Berlin, donc, présentait l'avantage de prendre en charge les cours de langue allemande et visait donc plutôt les jeunes qualifiés, diplômés. C'est d'ailleurs ce que souligne Thomas Liebig. Il a été interviewé par le magazine Atlantico. Il est spécialiste des migrations à l'OCDE et il raconte donc que l'apprentissage de la langue du pays d'accueil est fondamental. Or, celle-ci est complètement absente du projet de Peter Hartz. Un sondage de l'OCDE montre même que la maîtrise de la langue est le premier critère de recrutement pour les entreprises. On attend donc de connaître leur réaction sur ce beau projet alléchant, mais qui a besoin de faire ses preuves.
Et en attendant, Eve, on se dit donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas ?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de m'élever.
Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café.
Elle est totalement inscrite dans la culture finlandaise, de même que le tea time pour les Britanniques. Les Finlandais ne conçoivent pas leur journée sans leur pause café. Ils sont tellement friands de ces grains qu'ils en consomment près de 12 kilos par an et par personne, contre un peu plus de 5 seulement en France. Une passion qu'a tenté de comprendre Pauline Curté à Helsinki.
qui le boivent long, avec du lait, comme c'est souvent le cas ici, ou court, plus à l'européenne. Le café constitue l'un des sujets de discussion préférés des Finlandais. C'est le cas d'Erja Korhonen, jeune scénariste pour la télévision finlandaise. Elle avertit ses interlocuteurs, si on lui parle de café, mieux vaut être prêt à passer plusieurs heures à discuter avec elle de ce breuvage, à l'importance majeure dans sa vie quotidienne. Sans ses deux grandes tasses, avalées le matin, elle assure qu'elle ne pourrait pas bien démarrer sa journée.
J'aime la manière dont je me sens après avoir bu mon café. C'est très important pour moi. En Finlande, c'est aussi un moyen de se sociabiliser, de rencontrer du monde. Ici, on a du mal à se parler. La pause café avec les collègues, par exemple, permet de briser la glace. On parle d'autre chose que du travail. On apprend à se connaître.
Le café préféré d'Erja Korhonen est finlandais. Il est destiné à être bu dans des grandes tasses. Ses grains sont plus verts que ceux du café européen qui permet de préparer espresso et autres cafés courts. Cela donne un goût plus léger, facile à mélanger avec du lait ou du sucre. Ce goût, Erja Korhonen assure ne pouvoir le trouver nulle part ailleurs.
J'ai habité en Suède il y a quelques années. À chaque fois que je rentrais en Finlande, je devais faire provision de mes paquets de café préférés. Je me souviens aussi avoir découvert le café de Starbucks lors d'un voyage aux États-Unis. Au début, je trouvais ça cool, mais j'ai vite dû revenir à mes racines, au café finlandais.
D'après les dernières statistiques, les Finlandais comptent parmi les plus gros consommateurs de café au monde. Un Finlandais va en consommer à peu près 12 kilos par an, contre environ 6 en France ou en Italie. Aujourd'hui, c'est bien simple, les producteurs de la boisson en Finlande assurent qu'ils ne peuvent pas en vendre plus. Le marché est saturé. Et cette histoire d'amour entre les Finlandais et le café dure depuis un siècle. Romans, peintures ou récits du début du XXe siècle témoignent déjà de la place capitale du breuvage dans le quotidien des Finlandais. Lasse Widman est un expert en la question. Ce restaurateur a été désigné comme meilleur barista de Finlande et pense savoir pourquoi cette boisson est si importante pour ses compatriotes.
Of course, we are cold country.
Nous vivons dans un pays froid, nous avons donc besoin de boire des boissons chaudes. C'est pour cela que notre café est très long. En Italie ou en Espagne, il fait trop chaud, ils ne pourraient pas boire nos grosses tasses. Et depuis des décennies, les producteurs de café finlandais font du bon travail. Leur produit est de bonne qualité, alors forcément, il attire les consommateurs.
Pour la Sevidman, chaque tasse bue est unique. Il faut l'apprécier jusqu'à la dernière goutte. Le restaurateur associe le café aux meilleurs souvenirs de sa vie.
Je me souviens de tellement de bons moments. Par exemple, quand j'ai vraiment appris à apprécier le café, je découvrais les nuances, les goûts différents, c'était incroyable. Et depuis que je suis enfant, j'adore aller pêcher sur la glace en hiver avec un thermos de bon café bien chaud dans mon sac.
Maria Oiva, elle, est finlandaise, mais préfère les variétés européennes de café. Ce qui ne l'empêche pas de partager des anecdotes typiques du pays nordique.
Mon grand-père dirigeait dans le temps un théâtre à Helsinki. Quand il travaillait, son assistant devait toujours veiller à ce que sa tasse soit remplie. C'était une part importante de son travail. Mais un jour, mon grand-père a eu des problèmes de santé. Le docteur lui a demandé combien de tasses il buvait chaque jour. Il n'en avait aucune idée. Son assistant s'est donc mis à compter. Ils sont arrivés à 35 tasses par jour. Et ça, pendant la journée de travail seulement. Souvent, quand je raconte cette histoire à des Finlandais, ils sont très étonnés. Puis ils réfléchissent et ils disent « En fait, oui, ça pourrait aussi m'arriver. »
Reste que la Finlande subit l'influence de ses voisins sud-européens. D'après les producteurs de café, les habitudes changent. De plus en plus de Finlandais se tournent vers les espressos et autres cappuccinos. Sans pour autant complètement délaisser leur propre café finlandais, impossible à oublier.
Et Accent d'Europe, c'est déjà fini avec ou sans tasse de café à la réalisation, bien sûr, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute. Dans un instant, un petit peu de patience, les infos.